Terre des Hommes. L'émission qui donne la parole aux étudiants étrangers, proposée par le service du recrutement international de l'Université catholique de l'Ouest.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver en cette nouvelle année 2022. Nous sommes le 8 février 2022, Jean Robin au micro. Alors mon collègue Clément n'est pas là puisqu'il est au Ghana en mission en Afrique de l'Ouest. Mais en revanche, pour vous chers amis auditeurs et auditrices, j'ai autour de cette table, dans ce studio, trois invités d'honneur qui vont dans quelques instants se présenter à vous. À tout de suite. Alors, chers amis, auditeurs et auditrices de Radio Campus, sur le site de l'UCO à Angers, l'Université catholique de l'Ouest, je suis donc ravi, comme je le disais à l'instant, d'accueillir dans ce studio, autour de moi et en commençant par ma gauche, le père Togo Amadi Dikizito. Bonjour père.
Bonjour.
Père Togo, vous êtes le recteur, on dit là-bas le président de l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest en Côte d'Ivoire à Abidjan.
Tout à fait.
À côté de vous, Philippe de Cuverville, qui a déjà une très belle carrière devant lui et qui maintenant, jeune retraité, et qui vient avec sa femme de partir en Côte d'Ivoire pour quelques mois pour coordonner les projets entre l'UCO et l'UCAO. Et Philippe, vous venez de Bretagne.
Oui, en l'occurrence, j'habite Paris, mais je suis un Breton d'origine.
Voilà, donc vous allez tout à l'heure nous expliquer ce que vous faites en Côte d'Ivoire pour le compte de l'UCAO et de l'UCO. Et à ma droite, le père Gaston Cossi-Augui, qui lui est d'origine béninoise, aussi prêtre, aussi docteur, chercheur, et qui travaille donc dans le département recherche et la faculté de théologie.
Tout à fait.
Alors, nous allons, si vous voulez bien, chers amis, commencer par interviewer, dialoguer avec le père Togo Amadou Dikizito, qui est quand même, à tout honneur égard, le chef, le patron de l'Université catholique de l'Ouest, l'unité d'Abidjan. Et le cher père Togo, je suis très content de vous accueillir à Terre des Hommes.
Merci.
Vous êtes d'origine malienne, vous êtes malien?
Oui. Comme mon nom ne le dit pas, en fait, je suis malien, parce que Togo, c'est mon nom de famille, mais je suis malien, et spécialement de la région du centre, et spécialement de Mopti.
Alors, j'ai une question pour vous quand même. Comment se fait-il qu'un prêtre malien arrive à Abidjan pour devenir le président de l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest? C'est quoi votre parcours? Racontez-nous un petit peu d'où vous venez, ce que vous avez fait, et pourquoi vous êtes arrivé ici, en fait, finalement.
Alors... Comme je l'ai dit, je viens de Mopti. Je suis prêtre diocésain de Mopti, ordonné prêtre en 1993, le 11 septembre pour la précision. Et j'ai été vicaire puis curé dans le diocèse de Mopti avant d'être envoyé par les évêques du Mali pour faire des études d'histoire de l'Église pour l'enseignement au grand séminaire. Et ensuite, j'ai été enseignant au grand séminaire, puis nommé recteur du grand séminaire. Et quand mon mandat est fini, je suis reparti dans mon diocèse et j'étais curé de la paroisse cathédrale de Mopti. Et ensuite, les évêques du Mali m'ont proposé pour ce poste-là. Et cela a été accepté donc, par qui de droit. Et c'est ainsi que la congrégation pour l'éducation catholique m'a confirmé cette nomination pour être le président de l'UCAO. Parce que l'UCAO, c'est l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, c'est un réseau d'unités universitaires, mais qui forment une seule, un seul corps, une seule université. Et donc, il y a un seul recteur, mais il y a plusieurs présidents, dont celui d'Abidjan. Et moi, j'ai été nommé pour Abidjan.
Et quand même, vous oubliez aussi de dire que votre parcours vous a amené à Rome, en Italie.
Et oui, parce que pour étudier l'histoire de l'Église, en fait, c'est à Rome qu'on a la faculté pour étudier l'histoire, précisément à la Grégorienne, où j'ai fait d'abord la licence de 2001 à 2004. Puis après quelques années d'enseignement, je suis revenu pour faire le doctorat. Et j'ai fait ma thèse sur l'évangélisation du pays Dogon, pour ceux qui ont entendu parler des Dogons. Voilà.
Et alors, dites-moi, vous avez suivi tous vos cours en italien ?
Ah oui, forcément, quand nous sommes arrivés, nous avons fait un mois de cours à Vérone. Voilà. Et ensuite, on est venu faire un autre mois de cours à Rome. Et les cours ont déjà commencé après deux mois. Mais étant donné que nous sommes quand même des francophones, le français et l'italien étant des langues latines, sont issues du latin. Et donc, pour suivre les cours, ce n'était pas trop difficile au début, bien sûr, avec un dictionnaire à côté, parce qu'il y a des nouveaux mots, il y a des professeurs dont le vocabulaire est assez riche, d'autres c'est moins riche peut-être, mais en tout cas, et petit à petit, au bout de 6 mois, 7 mois, ben, finalement, on comprend presque tout.
Waouh, il faut quand même le faire. Alors, avant qu'on on aborde un peu la question de votre mission aujourd'hui, et plus globalement, ce que j'aimerais discuter avec vous, c'est comment vous voyez l'état de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, et notamment de la Côte d'Ivoire, en termes de perspective, de prospective, mais parlez-nous un peu du Mali, parce que le Mali, ça va quand même pas très fort en ce moment. Comment ça, je crois en plus que vous venez de la région qui est la plus impactée par les passages des terroristes et des perturbations économiques, sociales, même militaires. Donnez-nous un peu des nouvelles de votre pays.
Alors, j'ai quitté le Mali le 11 septembre 2021. Et donc, j'ai quitté il n'y a pas très longtemps. Et comme tout le monde le sait, c'était un pays tranquille. Hein. Le Mali était un pays tranquille. On pouvait aller faire du tourisme, on pouvait se promener comme on veut. Mais à partir de 2012, il y a eu une crise. Et comme on le sait, il y a eu donc des indépendantistes et aussi d'autres qui ont d'autres visées, eh bien, qui ont créé donc une situation de crise et de conflit, et avec les interventions de Serval, comme on le sait, ensuite Barkhane et puis la MINUSMA. Mais malgré donc tous ces organismes qui étaient là pour appuyer le Mali, pour stabiliser le Mali, il n'y avait pas la paix encore parce que la situation, au contraire, continuait à s'empirer. Et il y a même eu des crises entre les communautés même maliennes. Mmh. On parle tantôt des Dogons et des Peuls, beaucoup ont entendu parler de cela. Mmh. Mais toujours est-il que la situation est devenue très précaire sur le plan de la sécurité, on pose des bombes, on attaque des gens. Des villages ont été souvent encerclés et toute la population massacrée. Wow. Et si bien que la situation sécuritaire était vraiment dramatique. Bon, dernièrement encore, il y a eu des coups d'État, comme on le sait. D'ailleurs, dès le début, en 2012, il y a eu un premier coup d'État, ensuite un autre coup d'État, ensuite un autre coup d'État. Donc disons que sur le plan aussi politique, le Mali est très instable actuellement. Nous espérons toujours que ça va se calmer et nous aurons la paix. Mais il faut bien prier. Mais c'est sûr que c'est une situation, on ne sait pas trop comment ça va évoluer.
Et donc pour l'instant, la population est dans quel état d'esprit? Elle est terrorisée, il y a les gens gardent l'espoir, les gens y croient encore. Quel est le sentiment qui ressort selon vous de ce qui se passe sur le terrain? Parce que maintenant vous êtes en Côte d'Ivoire, mais votre famille, qu'est-ce qu'elle vous dit lorsque vous les appelez?
C'est sûr que, bon, moi, je suis d'un village Dogon perdu dans la plaine là-bas. Et parfois aussi, ils ont les visites de ces terroristes, on les appelle terroristes comme ça, il y en a qui les appellent les bandits, mais ce sont des voleurs de bétail, ils viennent dans un village et puis ils prennent tout le bétail, ils s'en vont. Parfois, ils peuvent aussi faire des massacres, mais pas forcément toujours. Et moi-même, j'allais assez souvent au village pour rendre visite à mes parents. C'est vrai que maintenant que mon père est décédé, j'y vais moins souvent. Mais depuis qu'il y a ces événements, j'y vais encore moins souvent. Mmh. Imaginez-vous, juste avant que je ne vienne, par exemple, j'ai un beau-frère et un neveu qui ont sauté sur une mine. Wow. Ils étaient en véhicule. Peut-être les mines ont été mises pour les militaires, mais c'est eux qui sont sautés dessus. Leur véhicule a été coupé en deux comme une courge. Et les 4 personnes qui étaient là, elles sont tous morts.
Oh là là.
Et donc, c'est une situation d'insécurité au niveau de la population. Et je crois que beaucoup de gens ont entendu parler également du prêtre qui avait été pris en otage, qui est resté 23 jours avec les terroristes. Mmh. Enfin, disons-le comme ça. En tout cas, lui, il est tombé sur le bon groupe, puisque à la fin, il a été libéré au bout de 23 jours. Mmh. Ils étaient 5. Hein, le prêtre et puis 4 autres laïcs qui partaient pour des funérailles. Et puis, ils ont été pris par en otage. Eh bien, il est resté 23 jours et il est revenu terrorisé, un peu déboussolé. Voilà. Donc, on peut dire que la population vit dans ce sentiment d'insécurité. Et même parfois, c'est arrivé que des gens ont proposé que des villages soient évacués. Mais les gens disent, nous allons aller où? Depuis 500 ans, depuis 600 ans, nous vivons ici. On ne peut pas tout laisser partir. Nos ancêtres sont enterrés là. Nos parents sont enterrés là. Donc les gens, quand même, malgré tout, restent en espérant des jours meilleurs.
Hey,
En espérant des jours meilleurs, c'est une transition qui n'est pas facile à faire. Du coup, pour revenir en Côte d'Ivoire et parler un peu du métier que vous faites aujourd'hui, finalement, mais on est très sensible à cette question de la sécurité en Afrique, et notamment pour ce que vivent tous ces villageois, toutes ces personnes. La France vient de se faire plus ou moins chasser du pays, mais au fond, nous tous qui sommes des citoyens du monde et qui aimons l'Afrique, nous espérons que les choses vont avancer positivement et que ces peuples vont s'entendre et qu'il va y avoir des solutions politiques et économiques. Vous y croyez encore, Père Togo, qu'à court terme, ou en tout cas dans un moyen terme rapide et proche, on va pouvoir trouver des solutions au Mali?
Bon, moi je pense que les brouilles, ça arrive, même entre gens d'une même patrie. L'Europe, moi comme j'ai fait l'histoire de l'Église, on parle de la guerre de 100 ans,
avec les Anglais,
ça a eu une fin.
Bah oui.
La guerre de 30 ans aussi, ça a eu une fin. Et la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, l'Europe vit en paix. Et moi, je pense que aussi le Mali, eh bien, aura aussi un jour cette paix également. Et donc, tout problème, si on s'assoit pour parler, et puis bon, je pense qu'il y aura toujours une solution. En tout cas, au Mali, dans tous les cas, nous avons étudié en français, nous parlons français, nous consommons aussi le français, je peux dire, puisque c'est le CFA, c'est le français. Hein. Et donc, je ne pense pas que ce soit une crise éternelle. Et toute crise aura sans doute une fin.
C'est un message très, très fortement teinté d'espoir et presque courageux et d'audace qui nous fait beaucoup de bien à entendre. Alors aujourd'hui, Père Togo, vous êtes le président de l'UCAO, l'unité universitaire d'Abidjan. Oui. Quel est votre métier? Mais surtout, vous qui rencontrez des jeunes maintenant, des jeunes qui viennent étudier chez vous, quelle image vous avez de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan? Qu'est-ce que vous ressentez dans la jeunesse ivoirienne? Parce que bon, On peut lire la presse et à partir de chiffres, faire des analyses socio-économiques de la Côte d'Ivoire. C'est une chose. Mais moi, ce que j'aimerais savoir de vous cet après-midi, c'est qu'est-ce que vous ressentez de la vision que porte la jeunesse ivoirienne, leurs rêves, comment est-ce qu'ils voient le monde, à quoi est-ce qu'ils aspirent? Qu'est-ce que votre nouveau métier aujourd'hui vous fait découvrir de la jeunesse, j'ai envie de dire francophone, subsaharienne? Qu'est-ce qu'elle porte aujourd'hui, cette jeunesse?
Bon, ça, c'est une question assez difficile à répondre, mais je vais tenter. De toute façon, moi, je suis le président de l'unité universitaire d'Abidjan, qui fait partie donc d'un ensemble d'unités universitaires de l'UKAO. Et à Abidjan, nous avons trois facultés, la faculté de droit civil, la faculté de théologie et la faculté de
philosophie.
Voilà, philosophie, théologie et droit civil. Mais il y a aussi trois instituts. Il y a l'ISCOM, donc la communication. Il y a l'IEG pour l'économie et la gestion. Et il y a aussi le droit canonique. Voilà, donc, et je vois des étudiants venant de tous les côtés d'Abidjan ou même au-delà d'Abidjan pour suivre l'une ou l'autre filière. Et ce que je remarque, c'est que la jeunesse a cette volonté d'apprendre. On voit que les gens sont bien zélés et puis, bon, ils sont très contents aussi de porter la tenue de l'UKAO. Ah, ça, c'est impressionnant parce que les gens sont tous bien habillés avec la veste. Ils sont très fiers de cela. Et je sens une jeunesse qui a envie d'apprendre et d'être efficace et d'avoir un bon boulot pour faire démarrer le pays et aller de l'avant. Et je dirais que c'est pour moi un signe d'espoir pour la Côte d'Ivoire parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes. Et, bon, c'est vrai, moi je viens d'une paroisse, là, bon, c'est un peu plus bigarré, mais là, sur à l'université, ouais, bon, beaucoup de jeunes filles et jeunes garçons, et puis bon, quelques professeurs aussi qui sont là pour les encadrer. Et donc je pense que l'avenir d'un pays dépend beaucoup de sa jeunesse. Et bon, en plus de l'UKAO, il y a aussi d'autres universités privées, sans compter l'université, donc les universités d'État comme Boaké ou Cocody. Et donc, on peut dire qu'il y a beaucoup d'universitaires à Abidjan. C'est ce qui m'a impressionné. L'accueil était très bon. Hein. Moi, c'est vrai que Mopti, c'est très différent de Bamako, mais c'est presque pareil. Mais quand je suis arrivé à Abidjan, c'est un peu plus différent encore. Mais néanmoins, je ne suis pas déboussolé.
Donc là, ce que vous nous dites, Père Togo, c'est qu'en fait, cette jeunesse, elle s'inscrit dans une dynamique de construction professionnelle, mais aussi de recherche de paix, finalement. Puisque pour construire un pays sur des bases économiques et sociales, il faut que le préalable à tout ça, c'est quand même la paix. Est-ce que vous sentez que ces jeunes, parce que la Côte d'Ivoire sort d'une crise aussi récente, et puis d'une guerre quasi civile il n'y a pas quelques années encore, vous sentez que cette jeunesse, elle ne veut plus de ça, elle veut s'inscrire dans une paix durable, elle veut qu'on construise sur des bonnes bases. C'est fortement porté par la jeunesse aujourd'hui en Côte d'Ivoire?
Je dirais pas seulement en Côte d'Ivoire, même au Mali, au Burkina. En fait, le problème justement de ces pays, c'est l'insécurité. Les gens, bon, ils sont fatigués de l'insécurité. Ils veulent vraiment s'investir dans des activités vraiment économiques pour le développement. C'est ce qui intéresse beaucoup. Alors, tant qu'il y a l'insécurité, on ne peut pas se développer. Et tant qu'il y a l'insécurité, on ne peut pas étudier en paix. Et donc, pour les jeunes, c'est sûr que leur volonté, c'est d'être dans un pays tranquille où on peut préparer tranquillement son avenir pour aussi apporter quelque chose au pays, mais soi-même aussi trouver donc un créneau pour son propre bonheur.
Père Togo, merci. Vous venez de dire « Tant qu'il y a de l'insécurité, on ne peut pas étudier en paix ». Je pense que c'est un message qu'on peut délivrer à tous les hommes et les femmes politiques de ce pays qui se sont présentés à la présidence de la République et qui vont bientôt faire appel au suffrage et au vote des citoyens français. Et nous sommes d'accord. Nous pensons que nous ne pouvons pas construire un pays sans la paix. J'espère qu'ils vont s'inspirer de cela. Chers amis auditeurs et auditrices, nous vous remercions beaucoup pour cette 12e émission que nous avons passée ensemble. Et nous vous souhaitons, au nom de Radio Campus, un bon retour à Abidjan.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.